dans cette release de CPU des cadres trop chébrants. Une timeline trop rapide. Des zones blanches. Et surtout de l'os. Alors évitez, s'il vous plaît, évitez, pas de l'os, merci. L'équipe aujourd'hui est composée de Pierre, Anthony et d'Askritch. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Vous l'avez éteint ? Ouais ? Hein ? Non, ce serait plus... Oui, forcément, c'est plus simple. Allez, c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour Pia.
Bonjour.
Ouais, une petite nouvelle au micro, voilà. Bonjour Anthony.
Salut.
Eh oui, encore, deux nouveaux chroniqueurs qui arrivent dans CPU, on va en parler cette semaine. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es en train de te hisser dangereusement sur ce tabouret. Fais attention, oui, non, mais c'est pas histoire de choper la deuxième barre de réception réseau sur ton téléphone que tu vas mieux y arriver si tu te casses la gueule. Oui, il n'y a pas à dire, rien n'angoisse plus un geek que de ne pas avoir de réseau. Mais des fois, le travail est tellement prenant que tu songes sérieusement à te débrancher le week-end, t'en as ras-le-bol, voilà, stop. Marre. Et à vrai dire, j'ai un peu honte à le dire devant les deux nouveaux équipiers de CPU. C'est un peu ce que j'ai fait, figurez-vous, ce week-end. Je n'ai aucun texte d'écrit. Ouais, j'ai pas fait mes devoirs. Je devais écrire la présente introduction et une chronique sur l'astreinte, rappelant le principe du forfait horreur, même pour les cadres ou les conditions d'usage d'un matériel qui vous est prêté par votre employeur en dehors du travail. Ben non, là, non, rien. Comme une éloge de la paresse, car ce n'est même pas l'angoisse de la page blanche, hein. Je n'ai pas été capable d'écrire la moindre chose. Sinon, c'est pitoyable, ligne d'excuses qui m'aurait valu une belle pull pour le devoir. Bon, après tout, c'est toujours mieux qu'à faire un copier-coller depuis Wikipédia, mais je ne dénoncerai pas mes petits camarades copiteurs comme Bernard-Henri Lévy ni Michel Houellebecq. Ça ferait mauvais genre, comme là où ici, qu'on plaise. Mais arrêtons de parler des médiocres, hein. Après tout, on parle de toi, on parle de moi, on parle de nous autres. Alors pour une fois, j'abrège un peu rapidement cette chronique. Je me tourne vers nos deux nouveaux équipiers, Pia Pandelakis et Anthony Mazur, puisque c'est surtout eux qui vont animer cette émission. Ils vont expliquer un peu le principe qu'ils ont derrière. Et moi, je vais débrancher, faire le minimum, pousser les boutons, me laisser porter. Et puis voilà, une grosse flemme. Ça fait du bien. Surtout après une émission sur le café. Pia, Anthony, donc présentez-vous pour le coup à nos auditeurs.
Bonjour, alors du coup je m'appelle Pia Pandelakis, je suis enseignante-chercheuse et je travaille à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Par ailleurs, donc...
Quoi, la fac du Mirail ?
Exactement, oui, on l'appelle Toulouse-Jean Jaurès, mais en vrai c'est le Mirail, pour ceux qui y sont allés anciennement. Je suis enseignante-chercheuse en cinéma et en design, ce qui est un peu bizarre et ce qui est un conflit au quotidien, mais ça justifie pas mal de projets et des projets que je peux avoir avec Anthony. Que dire d'autre ? Si je suis spécialisée, enfin j'essaye de me spécialiser dans les questions autour du queer design, voilà, c'est des choses qui surgiront au fil de la discussion. Mais j'en dirai pas plus pour le moment, je laisse Anthony se présenter.
Oui, je suis aussi enseignant-chercheur Mirail Toulouse-Jean Jaurès, comme vous voulez. Sur mes thèmes de prédilection, je travaille essentiellement sur les enjeux du design graphique et du numérique et sur les rapports code-design, on va dire. Qui recoupe donc assez largement les enjeux développés par Pierre.
Donc, on va expliquer, hein, en fait, c'est que vous voulez justement faire une suite de podcasts que vous avez appelé Killed by App. En fait, on hack un peu parce qu'on ne pouvait pas comme ça les autoriser à aller à la radio si le programme n'était pas diffusé. Donc, hop, on va le packager dans CPU, voilà. Hop, moi, j'ai rien à faire. Donc, c'est surtout eux, en fait, qui vont vraiment animer. Pour le coup, ce n'est pas axé autour d'une interview d'un maker, etc. Ça va être deux regards d'enseignants-chercheurs. Et Killed by App, en fait, quel est le principe général de l'ensemble ?
Ça commence à Montpellier, non, on peut le dire. Il faut faire un peu l'historique de... Bah, ça commence même il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés. On n'a pas tout de suite collaboré ensemble, mais assez vite, quand on a soutenu respectivement nos thèses, nos intérêts de recherche ont convergé, mais de manière un peu bizarre. Anthony est plutôt spécialisé en humanité numérique, donc c'est la question du code, c'est la question des programmes sur laquelle porte sa thèse. Et moi, j'étais plutôt du côté du cinéma, des fictions, mais la manière dont les fictions problématisent des rapports à la technologie.
Et donc, on avait chacun fait des conférences ou des articles, certaines en commun, plus récemment, et on avait envie de poursuivre ensemble à travers une possible publication écrite, à voir sous quelle forme. Et on s'est dit que pour la bosser, au lieu d'écrire de façon assez classique, on allait faire un podcast. Et c'est là que la Screech entre en scène.
Voilà, et on va faire une coupure musicale, le temps aussi que j'aille engueuler les mecs dehors qui font du bruit. Well, all right. Star Child, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramids. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Getting down in 3D. Lightyear groove. Well, all right. You hear the noise? Ain't nobody but me and the boy. Get down. Hit it, fellas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. This far. Mothership connection. Home of the people, the bomb. Doing it in 3D. Put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. C'est bien, il y en a qui suivent derrière. Il y en a une qui est reconnue par Liam Hunt, effectivement. Mothership Connection, Starchild. Et je me souviens plus du nom de l'album. Pour le coup, c'est extrait de la compilation Get Funked Up, The Ultimate Collection. Vous écoutez CPU sur Radio FMR, l'émission Carré Petit Utile.
Ce podcast, pour l'instant, son nom de code, c'est Kill by App. On le voit comme un processus de recherche qui pourrait donner lieu à un possible ouvrage, on va dire, sur les enjeux socio-économiques des applications. Donc il y aura plusieurs épisodes thématiques et on verra où ça nous mène. CPU, carré, petit, utile.
Pour commencer, on va vous parler des fantômes de la déconnexion. Et comme nous ne sommes pas de purs esprits, parce que nous savons beau être des chercheurs, nous avons aussi des corps, des vies intimes, subjectives. Ça commence par une expérience personnelle que j'ai eue il n'y a pas longtemps, une décision que j'ai prise qui était de quitter Facebook. Alors, chose assez tonitruante qui m'a valu pas mal de commentaires négatifs de la part de mes amis ou des réactions très surprises de gens qui m'ont demandé comment j'allais garder une vie sociale. Est-ce que je n'avais pas peur de m'isoler ou de finir dans une grotte ? Eh bien, finalement, tout cela est très décevant, puisque rien de tout cela ne s'est produit. Finalement, tout va bien. C'est une expérience que j'ai documentée sur Medium. On va y revenir, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que j'ai essayé d'anticiper sur ce départ, qui était quand même pas simple, parce que ça voulait quand même dire se séparer d'un ensemble de services, d'un ensemble de news, et même d'un ensemble de possibilités qui sont proposées par la plateforme, si on considère d'ailleurs que Facebook est une plateforme. Et puis suite à l'article sur Medium, j'ai eu pas mal de retours, je dirais pas négatifs, mais des critiques un peu virulentes, de gens qui m'ont dit mais enfin Pia, quelle idée de vouloir quitter Facebook, c'est un geste vraiment très théâtral mais qui au fond n'a pas vraiment de raison d'être, puisqu'au fond nous avons tous une responsabilité individuelle et qu'il suffit d'avoir un comportement très responsable avec ces outils et puis ça suffit bien. Et ça m'a beaucoup dérangée parce que ça va dans le sens d'une définition de l'outil technique ou même de la technologie comme étant neutre, c'est-à-dire comme n'ayant pas de sens ou comme n'induisant pas de comportement, ce qui est une notion à laquelle je m'oppose fermement. Et il me semble d'ailleurs qu'Anthony s'y oppose aussi, puisqu'il a quand même écrit sur la pensée des programmes. Donc.
Au-delà de ces critiques, et je te rejoins, je me demande si en fait, c'est pas faux. Est-ce que tu as vraiment quitté Facebook, vu que tu es toujours... Pia inscrite sur Instagram faisant partie de la grande galaxie Facebook, dont le réseau social n'est qu'un aspect, certes important, il y a aussi WhatsApp, il y a d'autres choses, Messenger. Et donc, est-ce que tu n'es pas, malgré toi, rattrapé par ces fantômes? Tes données sont encore conservées chez eux, encore un paquet de temps, c'est pas exactement. Ton compte donc est encore utilisé, les boutons like te tracent même si tu ne cliques pas dessus. Donc, finalement, est-ce que toute déconnexion n'est pas forcément... illusoire et partiel. Est-ce que voilà, ton exemple n'en est pas le paradigme?
Je pense que oui, surtout que autant j'ai eu une certaine facilité à quitter Facebook, quand même, il faut bien le dire. Je suis très dépendante d'Instagram pour des raisons personnelles. Je suis assez fan de tatouages. Donc je suis beaucoup de comptes de tatouages et je suis liée à Instagram et j'arrive pas à en partir. Et donc en étant liée à Instagram, je suis, comme tu l'as très bien dit, liée à Facebook.
Donc cette question d'attention, enfin, en fait, on voulait s'y intéresser, est-ce qu'elle est aujourd'hui assez centrale dans les recherches? Par exemple, on y reviendra, mais le chercheur en littérature Yves Citon a écrit sur ce qu'il appelle une écologie de l'attention, donc un autre rapport à l'attention que ces mass-médias et ces médias sociaux. Et donc un des enjeux, ce serait de retrouver une attention plus humaine avec cet article, peut-être tu peux nous en dire deux mots, « Oh, I get my attention back » du chercheur Craig Mudd, américain.
C'est un article qui est assez intéressant parce qu'il explique en fait comment on se retrouve piégé par un ensemble de services et de plateformes qui se disputent au fond notre attention, alors qu'il était assez inoffensif au début. Craig Mudd rappelle que finalement, au début, Facebook, c'est un mur, mais il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas d'ultra-connexion entre les groupes, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'augmentation, si on veut, du service. Donc, c'est assez inoffensif. Et petit à petit, ces plateformes, alors déjà en enrichissant leurs propres services, et qui plus est, en étant connectées entre elles, finissent par devenir de plus en plus chronophages, de plus en plus attrayantes, et surtout finissent par centraliser une somme de services. Là où Craig Mudd est aussi intéressant, c'est que il montre bien à quel point il y a un aspect contaminant de ces différentes plateformes. Il parle par exemple des mèmes comme d'une maladie. Et il explique aussi comment l'attention, elle est liée à un circuit physique de la stimulation et de la récompense. Et ça m'intéresse pas mal parce que moi, je fais des recherches qui sont souvent orientées autour de la question des corps et pas seulement de la technologie. Et je pense notamment à ce que dit Paul Preciado sur l'ère pharmaco-pornographique dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, et là je résume largement, je vais tailler son propos à la serpe, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas faire une critique des technologies sans les penser aussi comme des biotechnologies, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs qui affectent nos corps. Et donc tous ces sites et services, je suis pas sûre de savoir comment les appeler, parce que le fait même de les nommer plateformes est problématique, mais on va dire ces plateformes pour aller vite. Tous ces services-là nous attachent à eux, en fait, par un ensemble de stimuli et de stimulation-réponse. Et c'est ce que décrit Craig Mudd, notamment, en parlant du dopamine shot, donc le shot de dopamine. L'idée que finalement, on n'est pas dans un service qui est uniquement technologique, mais qui est bien lié à une réponse du corps, et là, dans ce cas-là, une réponse hormonale, si on veut.
Alors, je vais quand même revenir aux machines, parce qu'on parle de déconnexion un peu rapidement, mais quel est son contraire? Enfin, pourquoi, en fait? Connexion, hyperconnexion, d'où ça vient? Effectivement, c'est aussi quand même, il faut le dire, une posture assez stéréotypée, voire un marronnier des étudiants, voire même de nous-mêmes, de dire qu'on serait dans une époque hyperconnectée.
Je déteste
ce mot.
Qu'on
n'a plus le temps pour rien. Donc voilà, en fait, on veut pas aller là-dedans et on veut essayer de voir ce qui se cache derrière ce terme un peu fourre-tout. À quoi on est connecté, quels usages? Et c'est peut-être là qu'on est certes chercheur, mais aussi designer dans cette histoire de podcast. Et donc, on observe ce qui existe, les usages ou des comportements. Et il y a notamment un phénomène en expansion depuis plusieurs années, le unplugged tourism, le tourisme de la déconnexion. Peut-être, Pia, tu peux pour nos auditeurs rappeler ce que c'est, sachant qu'on mettra aussi les liens sur la page du podcast.
Ah oui, si vous voulez vous-même faire du unplugged tourism, ça consiste à payer très cher pour qu'on vous supprime la connexion Wi-Fi. Dans certains cas, les plus extrêmes, la connexion au téléphone. Donc c'est vraiment cette espèce d'idéal du retour à la nature. Je rentre dans ma cabane, au Canada ou non, mais en gros, je regoute aux joies de la nature, les petits oiseaux qui chantent. Mais tout ça, c'est vraiment lié au service de la déconnexion. En fait, vous payez pour qu'on vous supprime, on vous supprime des services.
Avec des chambres qui sont des cages de Faraday qui coupent toutes les ondes possibles.
Ça, je ne sais pas si ça existe. C'est peut-être. Sinon, on produira le service et on vous proposera, on vous fera payer pour. Mais.
Et donc, il y avait aussi.
J'interviens. Il y a des peintures pour le faire.
Des peintures. Hein. Tu peux peindre ta chambre pour que ça fasse cage de Faraday. Ouais. D'accord.
Alors, la connexion, c'est aussi lié. Enfin. C'était peut-être, c'est une question qu'on peut poser, à un ensemble d'objets, de machines, de bruits, le bruit du modem 56K par exemple, qui signifiait de façon auditive de rejoindre un réseau. Alors, il ne s'agit pas de prendre une posture tournée vers le passé, mais cette hyperconnexion, en fait, elle est aussi invisible de façon majoritaire, et peut-être que c'est là que le préfixe hyper prend tout son sens. Et donc, dans nos recherches, on voudrait aussi finalement avoir une approche historique, voire archéologique, d'essayer de voir ce qui s'est fait dans le passé, ou même ce qui nous est advenu, ce qui advient à nos corps et à nos esprits, sans qu'on ait eu le temps de le penser ou d'y réfléchir. Donc cette posture critique et historique, elle est hyper importante.
Je voudrais juste dire que le bruit du modem 56K me manque. Je suis une vraie média archéologiste. J'adorais ce bruit. Non, j'adorais ce bruit. Et en plus, ce qui était génial avec ce son, c'est qu'en fait, ça faisait exister un entre-deux, entre un état qui était être connecté et ne pas l'être. Et du coup, ça faisait vraiment exister, je trouve, des zones. Tu savais à quel moment tu étais connecté, tu savais à quel moment tu l'étais pas. Et c'était ce son qui était vraiment rituel, qui faisait exister ça. Et je dirais pas qu'on est hyper connecté aujourd'hui, mais on est plutôt constamment connecté. Alors c'est un mot qui est peut-être moins sexy, mais il me semble plus précis en fait dans la description de nos états actuels en fait.
On s'en rend même plus compte en fait, la connexion est devenue un milieu comme des poissons à qui on demanderait qu'est-ce qu'est l'eau qui pourrait pas répondre. Et c'est lié aux ondes, à ces technologies qu'on peut appeler invisibles ou seamless en français sans friction. Il n'y a plus rien qui marque une différence d'état. Et ça se voit aussi dans l'idéal des objets technologiques aujourd'hui, qui en tout cas dans les publicités sont la plupart du temps sans câble, y compris pour des objets qui en ont vraiment besoin comme des box internet. Et le paradoxe, c'est que moins les ordinateurs ont de connectiques, plus on a besoin de câbles et de connectiques, notamment le retour des dongles avec la marque à la pomme. Donc du coup, cette technologie ubiquitaire engendre peut-être des nouvelles peurs ou des nouvelles phobies, parce que quand on ne sait pas ce qu'on voit, forcément ça fait marcher l'imagination. Et un exemple que je voulais donner, parce qu'on va parler de design et donc d'objets, c'était ce boîtier Wi-Fi Cybox, qui est un boîtier de boîtier qui est censé couper les ondes négatives des réseaux Wi-Fi pour protéger nos enfants. Donc il y a une sorte de panique morale qui s'empare de cette connexion invisible.
Bon, après, c'est vrai que c'est un sujet assez polémique. Je ne sais plus comment on les appelle, les hypersensibles aux ondes. Je ne sais pas si on va aller nécessairement sur ce terrain-là, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui un geste de design à l'endroit de la peur des ondes. C'est-à-dire qu'on fabrique et on façonne des boîtes qui viennent, d'une certaine manière, recouvrir nos boîtiers existants. De la même manière que nos câbles se redoublaient les uns les autres. Ça, je pense qu'il y a un lien qu'on explorera, je pense, aussi plus tard dans l'émission, mais c'est tout le lien à l'habitat, en fait. Un deuxième marronnier qui va avec la déconnexion, c'est la dématérialisation. Cette idée que d'un seul coup, tout serait dans le cloud, que parce qu'on a des technologies, on n'aurait plus de matérialité. En fait, on se rend bien compte, avec l'exemple que tu donnais, Anthony, qu'on multiplie de nouvelles manières de faire du matériel plutôt que de supprimer cette matérialité.
Ah, coupure !
Daskrich, on t'a perdu.
Dans mon bas comme des bébés.
Non, je suis désolé, hein, Anthony, Pia. J'ai pas pu m'en empêcher, c'est un peu la suite du 1er avril. Je vais juste me faire flinguer par du sport, faire la programmation musicale habituellement à Radio Éphémère. Il va me dire, mais comment t'as osé mettre du France Gall, mec? Je te parle plus.
Moi, je suis pas là.
Débranche.
Débranche la scritch, vite.
Et vous écoutez CPU sur Radio FMR avec Pia et Anthony pour parler Kill by App de déconnexion.
Souvenez-vous de votre vie avant l'iPhone et voyez comment il s'intègre maintenant dans tout ce que vous faites. Vous l'utilisez pour suivre votre santé, vous gardez le contact avec vos amis et votre famille pour payer. Il est devenu impossible de vivre sans. C'est pas moi qui le dis, c'est Tim Cook, PDG d'Apple. Il est devenu impossible de vivre sans iPhone. Paradoxe. Peut-être pas Tim Cook, mais ce genre de dirigeant haut placé dans la Silicon Valley envoie ses enfants dans des écoles sans tablette. Du coup, on peut s'interroger sur la déconnexion et l'hyperconnexion, et finalement ce qu'on désigne par ces termes un peu génériques, un peu fourre-tout. Peut-être ce sont des objets techniques avant tout, autrement dit, l'hyperconnexion c'est aujourd'hui le smartphone et toutes les applications qui vont avec. D'où le titre du podcast, Kill by App. Du coup, si le problème c'est le smartphone, est-ce que la solution toute bête, c'est pas de vivre sans, voire de vivre sans iPhone?
J'ai essayé.
De voir si c'est possible. Tu as essayé, Pia, et c'était un échec.
Voilà, total, puisque j'ai donc mon iPhone devant moi en même temps que je parle. Non, alors j'ai essayé, pas violemment, j'ai pas essayé de me passer de smartphone, j'ai essayé d'avoir un Yola. Pour ceux qui connaissent, le Yola, c'est un téléphone un peu geek, on l'achète plutôt quand on est capable de développer dessus pour tester des applications. Ça a un OS qui existe nulle part, qui s'appelle Selfish. Bon, le mien est juste décédé d'un problème de batterie et je peux jamais le changer. Et donc, j'ai cédé, la chair est faible, j'ai repris un iPhone, mais parce que l'interface est juste trop pratique. Voilà, donc je viens donner des conseils de déconnexion aujourd'hui, mais... que je ne suis qu'à moitié. Alors, déconnexion, on a parlé de ces quandriables où on paye pour finalement ne plus avoir de Wi-Fi, ce qui est quand même un paradoxe assez délicieux. Et déjà avant la pause, j'essayais de faire le lien avec l'habitat. et nos appartements et comment finalement la configuration de nos technologies, elle redouble aussi la manière dont on configure nos espaces. Et il me semble que dans cet idéal d'être tout le temps déconnecté, bah, y a aussi un idéal transversal qui est en fait l'idéal du minimalisme. Alors, minimalisme entre guillemets, hein, on ne parle pas du tout des mouvements historiques ou artistiques qui portent ce nom, mais plutôt des nouveaux minimalistes. Alors, vous les connaissez peut-être, Marie Kondo avec la méthode KonMari, ou de Minimalists avec leur incroyable newsletter qui encombre notre boîte mail au même titre que toutes les autres newsletters. D'ailleurs, Anthony, est-ce que tu veux nous révéler combien de newsletters tu avais sur ta boîte mail ?
Juste avant l'émission, j'ai reçu un mail de Unroll Me, d'ailleurs, c'est assez drôle que ça m'envoie un mail, qui m'informait que j'étais abonné à 590 newsletters et je peux me les inscrire une par une, mais ce qui me prend un temps de dingue. Et puis juste après, tu essayais de faire de même et le service te demandait de s'abonner et de partager cette information.
Oui, c'est-à-dire que je pouvais que me désabonner si je le partageais sur Facebook, mais comme j'ai plus Facebook, eh ben, ça n'a absolument intérêt.
On était tombés dans une espèce de chaîne sans fin causale.
Alors qu'on parle des fantômes de la déconnexion, donc c'est quand même un comble. Mais sur cette question de l'habitat, pour revenir là-dessus, qui est vraiment liée à la question des technologies, on se rend compte qu'il y a de manière contemporaine et très très forte cet imaginaire du vidage, du dépouillement. Donc ça s'appelle en anglais le declutter. Donc c'est vraiment l'idée de décharger, de désencombrer tous nos environnements. Et donc cette espèce de mode, qui est une mode, on va dire, de lifestyle, pour aller très vite, elle recoupe des imaginaires plus anciens qu'on trouve dans la fiction. Alors, deux exemples très rapides. Moi, il me semble qu'on voit ça dans Matrix. Matrix, c'est ça, on peut le voir comme l'histoire d'un mec qui se désabonne à tous les services auxquels il est abonné. Ou même dans Existence, donc cette histoire où on voit des gens qui se connectent à un réseau virtuel à l'aide de consoles biotechnologiques, on va dire, et qui n'en finissent pas de se déconnecter pour remonter à une couche supérieure de réel, mais sans y arriver complètement d'ailleurs.
Après, encore dans l'idéal matériel où la connexion se voit avec des gros câbles ou des matrices ou des espèces de biologiques, des pods. Peut-être que ce qui est pervers aujourd'hui, c'est que ces 590 newsletters sont invisibles. Je n'avais aucune idée d'être abonné à autant de fils et les débrancher un par un. C'est comme une hydre qui repousse tout le temps, quoi.
En même temps, cet idéal de déconnexion, alors là, Anthony, c'est plutôt ta partie, parce que c'est plutôt toi qui as beaucoup parlé de philosophie dans ta thèse, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus ancien sur des espèces de récits de révélation, en fait. On a l'impression qu'en se déconnectant, on va accéder à une vérité, alors peut-être pas supérieure, mais en tout cas une vérité originelle. C'est quasiment le retour de Platon et sa caverne, c'est-à-dire désencombrez-vous et vous aurez accès à une espèce de vérité peut-être pas ultime, mais en tout cas débarrassé de tous les encombrements et tous les signaux superflus de Facebook, d'Instagram, de Twitter.
Et donc le Graal, c'est le 3310 et qui ressort aujourd'hui et qui a fait la une du CES mobile, alors que c'est un téléphone qui datait d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben moi, j'ai adoré ce téléphone. Mais je pense, là pour le coup, je parle de manière plus personnelle. Je pense que le 3310 est incroyablement lié pour tous les gens de notre génération à au moins une grande histoire d'amour. Moi, je vois un 3310, je revois tous les textos de personnes que j'ai aimé défiler sur l'écran. Mais je trouve que ce lien n'est pas absurde parce qu'on parlait d'existence et ce rapport bon, biotechnologique, mais qui est quasiment sexuel. Plus tôt, je parlais des questions de pharmacopornographie. Donc, encore une fois, on lit bien technologie et sexe. Et petit teaser, avec Anthony, on vous parlera prochainement des sexbots, donc ces robots avec lesquels il serait potentiellement possible de faire l'amour. Moi, il me semble que dès lors qu'on parle de technologie, on parle très, très vite de désir et donc de sexualité. Et donc, 3310, désolé, moi, je pense sexe. Mais j'ai peut-être l'esprit mal placé, vous me direz.
Bon, après, c'est un peu décevant. 3310, c'est pas tout à fait le même. Il est moins solide, il a la 4G. Donc, bon. Ce remake, il est un petit peu mensonger quand même.
Mais on peut jouer à Snake.
En couleur.
Et ça n'a pas de prix.
Alors Thierry Crouzet, qui est journaliste techno, en 2012, a essayé de se débrancher. Et il a raconté ça dans un ouvrage qui s'appelle « J'ai débranché », tout simplement. Et paradoxe, en tout cas à l'époque, cet article ou ce livre avait fait le tour du web sur tous les sites. Et donc, pour lire comment il s'est débranché, il fallait être sur Internet, sur le web plutôt, pour lire tous ces comptes rendus. Donc finalement, on est toujours dans un peu comme toi, Pia, avec tu dis que tu quittes Facebook sur Medium, qui est une autre plateforme propriétaire.
Désolé. Donc,
finalement, on n'en sort pas.
Exactement. Non, mais il y a quelque chose d'une spirale. Mais en même temps, je crois aussi qu'il y a une séduction de la déconnexion. C'est-à-dire que quand on se déconnecte ou quand on souhaite se déconnecter ou quand on dit qu'on se déconnecte, parce que finalement, plus important encore que l'acte de déconnexion, il y a le discours qui est produit autour de la déconnexion. Quand on fait tout ça, on rejoue quelque chose d'hyper fondamental dans une relation homme-technologie, mais qui prédate Internet, le web. C'est vraiment la relation homme-machine. Et l'idée que dans la relation homme-machine, le moment du débranchement, c'est le moment où l'humain, finalement, réaffirme sa supériorité. Là, on va citer un film qu'on aime beaucoup.
Et, comme dans une relation amoureuse aussi, dans un sens, quand tu veux quitter quelqu'un, ça résiste. Puis Facebook a dû résister, dans un sens.
Oui, bah, Facebook m'a rappelé, j'ai eu droit à des petits écrans, des petits mails me disant « Ah,
ne me quitte pas.
Voilà, tu veux partir, mais peut-être que tu n'es pas sûr. » Donc, on te donne un mois, tu as un délai de réflexion, comme ça, si
on
jamais
fait
tu craques.
Une pause, tu laisses réfléchir.
Voilà, exactement. Bon, sauf que je n'ai pas craqué du tout, au final. Non, j'en suis vraiment déconnectée. Par contre, maintenant, dès lors que je me reconnecte sur Facebook, les contenus sont partiellement voilés, sont très difficiles d'accès. Donc, bien entendu, bah, voilà, y a quand même une perte, quoi. On ne peut pas dire que tout ça est indolore, mais...
Peut-être c'est là le cinéma peut être intéressant. Du coup, comment la machine a débranché dans le cinéma ?
Bah, je pensais à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film auquel on fait référence en permanence, surtout pour la scène où donc le cosmonaute va débrancher le robot HAL qui est hors de contrôle et qui tue tout le monde, hein, on peut le dire. Et c'est une scène qui est vraiment très belle parce que c'est une scène qui associe l'esprit de la machine, la relation affective que l'homme ou l'humain peut avoir à la machine, et surtout. Ce qui est très très beau dans cette scène, donc on voit le cosmonaute débrancher le robot disquette par disquette et on voit le robot qui perd petit à petit toute son intelligence. Ça commence par l'agilité, le cynisme, mais ça finit par des choses très très essentielles au niveau du langage. Et dans ce moment-là, il y a tout un temps où finalement l'humain affirme sa supériorité sur la machine. Et il me semble qu'on a ça en tête, enfin... Évidemment, ça n'a rien d'aussi dramatique que quand on se déconnecte de Facebook, mais c'est un peu ce drame-là qu'on rejoue, au fond.
Bon, après, les astronautes, c'est aussi une élite. Finalement, est-ce qu'en quittant Facebook, tu n'affirmes pas aussi une position sociale que tout le monde n'est pas prêt ou ne peut pas tenir ? C'est la question que je vais te poser.
Bah, finalement, quand on n'a rien dont on peut se priver, on ne se prive pas. Hein. C'est aussi le spectacle de dire « Regardez, j'ai toutes ces choses, mais je suis capable de m'en passer ».
Ça me faisait penser au sociologue Jean Baudrillard, qui a réfléchi autour de la société de consommation et des objets, et à la fonction signe, et qui montre que finalement, et là on en revient peut-être au design, après le cinéma, que quand on achète des objets ou quand on a une relation sociale avec eux, on échange des signes et non pas des besoins ou des usages, et que finalement, la déconnexion ou le désencombrement est une fonction signe. On montre aux autres qu'on n'a pas quelque chose.
Moi, j'ai parlé de Baudrillard il n'y a pas longtemps dans un colloque sur les images en transit, et j'ai parlé plus particulièrement de ces espaces très, très désincarnés qu'on appelle les espaces airspace. Alors ça peut paraître très, très éloigné des questions de la déconnexion, mais en fait ça se rejoint, et encore une fois ça se rejoint à l'angle du minimalisme. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a un faire signe de la déconnexion, donc c'est-à-dire je montre que je me déconnecte et je parle de ça et je me valorise socialement en disant que je suis déconnectée et que je n'ai pas besoin de ces services que sont Facebook ou Instagram, il y a aussi un faire signe du faire le vide. Donc on en parlait avec les fameux minimalistes ou KonMari. Alors j'ai pas trop expliqué ce que c'était que Marie Kondo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ouvrage qui a eu un très très grand succès. Donc Marie Kondo est une spécialiste et coach du rangement. Et en fait, elle pose un propos très simple dans son ouvrage, qui doit s'appeler « L'art japonais du rangement », si je ne me trompe pas. Ça consiste en fait à ranger son intérieur et se débarrasser de tout ce qui l'encombre en prenant les objets entre ses mains et en se demandant si ces objets vous apportent de la joie. Et si ces objets ne vous apportent pas de joie, vous vous en débarrassez. Ce qui est assez problématique au fond, parce que déjà, ça s'adresse à des populations plutôt favorisées. Enfin, c'est ce que tu disais avec Baudrillard, finalement. C'est que si j'ai pas d'objet dont je peux me priver, finalement, je le mets pas en spectacle.
C'est ça, je pense que Baudrillard aurait apprécié Marie Kondo. C'est faire savoir aux autres qu'on n'a pas quelque chose de façon ostensible. Ce qui génère du coup, paradoxalement, un encombrement médiatique dans tous les messages qu'on va faire passer. Si je jette sans le dire à personne, ça n'a aucun intérêt. Je suis riche parce que je peux montrer aux autres que je peux jeter les objets, classe inférieure, qui, elles, doivent encore acquérir des objets pour, en tout cas, donner l'illusion qu'elles sont dans une classe sociale supérieure.
Complètement, et on le voit bien avec les minimalistes, c'est un groupe de deux personnes, alors j'ai oublié leur nom, ils m'excuseront, Ils ont produit un documentaire qui s'appelle Minimalism, donc minimalisme, dans lequel ils expliquent tout ce mode de vie et cet idéal-là. Mais en même temps, ils ont créé toute une somme de services et toute une production médiatique autour de cet exercice du minimalisme, de telle sorte que ma boîte mail est encombrée par leur message me disant de me débarrasser de mon bordel matériel. Donc, on efface un bordel, si vous me passez l'expression, d'objets pour recréer un bordel numérique.
Oui, sachant que là, en plus, le désencombrement ne produit pas mécaniquement des meilleures choses. Je pense, bon, certes, il est controversé, mais l'écrivain Céline, son bureau était un bordel monstre. Et pourtant, ça fait partie des écrivains qui comptent aujourd'hui.
Du coup, vive le bordel.
Il y avait aussi Einstein, qui a été un gros bordélique. Ferdinand, take me out. Et c'était extrait de leur premier album, Franz Ferdinand, qui était sorti, si je me trompe bien, en 2005-2006 ou un truc comme ça, mais vous savez ce que c'est. Moi, contrairement aux enseignants-chercheurs qui sont devant moi, eh ben, je fais tout dans l'approximation. Vous êtes sur Radio Éphémère et vous écoutez CPU pour Anthony et Pia qui font leur discussion Kill by App. Et cette fois-ci, attention, j'interviens si vous allez trop vite ou que vous vous laissez comme ça. Et pas de Deleuze, pitié, pas de Deleuze.
C'était pas prévu. Alors, on est toujours dans les fantômes de la déconnexion. Après ces illusions ou cette possible, impossible déconnexion, eh ben, on va refaire nos designers. On va faire nos designers. Et on va essayer de voir comment on fait concrètement, essayer de dresser un guide tactique de la déconnexion. Alors pour ça, il y a un exemple récent dans la série américaine Black Mirror, saison 3.
Anglaise, pardon.
Qui du coup met en scène dans cet épisode, que je vais vous spoiler, enfin vous divulgâcher.
Non,
chut. Non, c'est juste la thématique, je n'aime pas la fin promis. Dans cet épisode, une fille... ou une société plutôt, note chaque individu en fonction de ses actions sociales dans la vie quotidienne et attribue un score de 0 à 5. Et moins ce score est élevé, plus la personne est dévalorisée, voire exclue socialement. Du coup, ici, ben, la déconnexion du réseau ou du pouvoir social devient une forme de punition très concrète. On lui interdit l'accès dans le bus, elle peut rien acheter, etc. Et ben, du coup, là, on peut se poser la question, faut-il se déconnecter dans cette situation, Pierre?
Bah, comment mesurer aussi la nécessité d'être connecté à tel ou tel site? Nous, c'est une question qu'on avait déjà posée. En fait, on avait déjà présenté nos recherches donc, dans un lieu, un haut lieu de la recherche que les gens ne connaissent peut-être pas, qui s'appelle Cerisy. Et on y avait défendu, en parlant des notifications, donc, qui sont aussi très invasives et qui sont un petit peu dans le prolongement de l'hyperconnexion, même si on n'aime pas trop ce mot, qu'on a pu décrire aujourd'hui. Et relativement à ça, on avait donc défendu un concept de politique des filtres, c'est-à-dire un regard actif et conscient vis-à-vis de ce qu'on laisse entrer et de ce qu'on ne laisse pas rentrer. Donc il y a vraiment une question de consentement ici qui est hyper forte, en fait, de à quoi on dit oui. Et j'ai la sensation, Anthony, tu me diras ce que tu en penses, mais que cette conscience-là, elle n'est pas très bien installée, on va dire, dans le grand public. Alors c'est toujours difficile de généraliser, mais que... il y a une difficulté à saisir que lorsqu'on s'inscrit sur un site, quel qu'il soit, on va dire Facebook au hasard, on autorise quelque chose à rentrer en fait. En même temps qu'on a accès soi-même à un ensemble d'informations, de services, de jeux, ben, que sais-je, on laisse aussi des choses entrer, on se laisse définir par cette technologie-là.
Oui, parce que c'est aussi que toi et moi, ou même personne d'ailleurs, quasiment ne prend le temps de lire ces conditions d'utilisation habitable, on coche la case et on passe à la suite, et après on sait plus ce qui se passe. Mais après, bon, Black Mirror, ceci dit, que j'ai essayé de ne pas trop divulgâcher, est déjà parmi nous. Effectivement, on a déjà des scores, des followers, des fans, des amis, que sais-je, et des services qui agrègent ces différents scores en un seul. Alors bon, ça a pas trop marché commercialement, mais Clout, K-L-O-U-T, était une tentative de noter toutes les personnes de 1 à 100, et dans son modèle économique initial, donnait droit à des surclassements en avion, dans les hôtels ou autres, si les différentes marques voyaient que vous aviez un score, bah, vous étiez par exemple assis tout seul dans le train.
Pour une fois, c'est moi qui apporte une précision. Ça a été mis en pratique en Chine, en République démocratique chinoise, où en fait, si tu as des interactions avec des citoyens qui ont eu un passé judiciaire, ou si tu ne retweets pas au moins 10 articles de la presse officielle, tu peux commencer à perdre des notes. Et ils ont mis en place justement le mois dernier. Tu ne peux plus prendre l'avion ou les lignes de train rapide, tu es obligé de passer qu'en train normal, ce qui est extrêmement pénalisant à l'échelle d'un continent.
Black Mirror est parmi nous.
Ah oui, non, mais ils l'ont mise en pratique, ils souhaitent bien l'appliquer d'une manière beaucoup plus drastique, même en dehors de leur état.
On le retrouve dans la fiction aussi, c'est peut-être le moment de conseiller un exceptionnel roman qui traite de ces questions et qui les traite aussi vis-à-vis de la question des histoires d'amour. Décidément, je parle que de ça. C'est un bouquin de Gary Steingart qui s'appelle « Triste histoire d'amour » ou « Super triste histoire d'amour », voilà, dans sa traduction française, et qui décrit comme ça des gens qui sont en permanence connectés à leurs terminaux, donc ça s'appelle pas des iPhones, ça s'appelle des apparates dans le livre. Et effectivement, les usagers sont constamment en train de vérifier leur code de popularité. Alors là où c'est intéressant, c'est que toi, Anthony, tu parlais de cas où c'était des entités commerciales plutôt qui jugeaient de la recevabilité d'une candidature ou d'un achat par un individu. Donc c'est des questions d'accès. Mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Steingart, c'est que les individus eux-mêmes ont hyper intériorisé ce système de notation, un petit peu comme dans l'épisode de Black Mirror, et prennent finalement au sérieux et totalement au premier degré les notes qui sont distribuées sur le réseau.
Par rapport à ce que tu disais sur la politique des filtres, j'ai cherché des solutions. J'en ai trouvé une, peut-être qui va t'intéresser. Ça s'appelle freedom.to, donc liberté. Et donc, c'est un service payant, désolé.
Oh non.
Ah bah, il n'y a rien de gratuit. À 7 dollars par mois, à peu près, qui du coup te permet de bloquer de façon sélective différents services, donc Twitter, Facebook. Tu peux définir des plages horaires, des minimums et des maximums de temps de connexion. Et c'est synchronisé sur tous tes appareils dans le cloud, dans les nuages. Donc c'est un service qui fonctionne sur plusieurs terminaux en même temps et qui te permet, même si ton téléphone pour cheater, pour tricher, si tu voulais aller sur Facebook depuis ton ordinateur portable, ça te bloque aussi. Donc qu'est-ce que t'en penses du coup?
Bah, je sais pas, Framasoft l'a pas cloné encore. On essaie de faire libre, Anthony, je te rappelle. Hein. On essaie de plus s'abonner à des trucs verrouillés, gaffaïsés, là. On essaie de faire des efforts. Bon. Tant pis. Du coup, peut-être qu'on pourrait expliquer notre titre, parce qu'on parle de fantôme de la déconnexion là depuis je sais pas combien de temps. Et au final, bah, on n'a toujours pas parlé de fantôme.
C'est mal. Bah, oui, c'était l'idée qu'on a déjà un petit peu soulevée, c'est que chaque connexion porte en elle le germe de la déconnexion. Et aussi, avec ton illusoire sortie de Facebook, il en
Merci
reste toujours quelque
rappeler.
Chose. Et oui, mais bon, ceci dit, moi je suis peut-être le junkie qui est encore de l'autre côté. Au moins, t'as essayé d'en sortir.
C'est vrai, d'ailleurs, t'es tenté un peu là. Hein. Tu me disais tout à l'heure.
Ça commence à picoter, ouais.
2017, je quitte Facebook.
C'est peut-être l'année.
Ah, bon, restez, stay tuned. On verra si Anthony quitte Facebook ou pas. Ce que je trouve marrant, c'est qu'on est toujours guetté par ça. C'est pour ça qu'on a pris ce thème finalement des fantômes. C'est que la question de la déconnexion nous hante, en fait. Dès qu'on rejoint ces services ou dès qu'on en vit l'excessive nécessité, parce que c'est souvent comme ça, on se dit, ah, c'est quand même bien pratique, ou ah, je sais pas comment j'aurais fait sans. Et dès lors qu'on statue sur cette nécessité, en fait, en se disant, ah, c'est quand même très pratique, bah, derrière nous, en fond, on a cette idée de, ouais, mais est-ce que je devrais, est-ce que je pourrais me déconnecter? Donc, c'est ce que tu disais. Dans
on
chaque connexion, il y a cette idée.
Pression sociale, mais aussi la technologie charrie tout un tas de fantômes, de mythes et de problèmes. Et bon, alors, c'est pas Deleuze. mais quand même, je l'ai cité Derrida, alors à titre d'extension, on l'a pas. Trop travaillé dans notre préparation de podcast, mais c'est écrit sur la spectralité et les technologies. Je pense qu'il pourrait être intéressant à être étudié si on voulait prolonger ça.
Bon, alors on va faire un cadeau à Daskrich qui ne voulait pas qu'on cite des auteurs compliqués. Donc on va plutôt citer Dunn and Rebus, sont des designers en plus. Des designers, formidables. Les designers nous aident à la déconnexion. Deux designers qui sont hyper intéressants, donc ils travaillent à deux. C'est Anthony Dunn et Fiona Rebus. Ils ont travaillé super longtemps en Angleterre. Aujourd'hui, ils sont à la New School à New York, il me semble. Et bon, ça fait maintenant 10 ans, mais c'est pour montrer aussi que leur production est vraiment d'actualité. Ils ont travaillé sur plusieurs projets. Alors, ils avaient les Hertzian Tales, donc les contes hertziens, mais aussi un ensemble de projets qui s'appelait les objets placebo et qui étaient au fond des objets qui tenaient un discours sur notre notre profond attachement aux technologies, mais aussi à toutes les questions de paranoïa, de dépendance qui pouvaient se poser par rapport à ces objets. Je ne sais pas, Anthony, si tu vois la Risk Watch, tu vois ce que c'est ou,
Non, tu peux expliquer.
C'est cette montre-là où, en fait, alors tu n'as pas de cadran, ça n'indique pas l'heure, mais ça contient juste un petit micro. Et quand tu l'approches de ton oreille, ça te géolocalise et ça te dit, alors je ne sais plus, ça te donne un score de dangerosité par rapport à l'endroit où tu te trouves.
Donc là,
dans
là, on serait mal ici, quoi.
Tu penses? Avec ouais. Toulouse, ouais.
Non, avec Daskrich.
Et sinon, l'horloge statistique, c'est pas mal aussi. L'horloge statistique, ça se présente comme une espèce d'énorme téton noir qui sort du mur. Et c'est un dispositif technologique, quand bien même ça ne se voit pas au premier abord. Et ça capte le flux de la BBC. Et ça compte, en fait, toutes les morts liées à la technologie en partant du flux BBC. Et si tu approches ton oreille de ce téton, ça te donne un chiffre clé qui est le nombre de morts lié à la technologie, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, des gens qui sont morts dans des accidents de train, qui se sont fait écraser par leur télé, que sais-je. Mais
c'est assez fantomatique, du coup, ouais.
Mais du coup, ça, c'est d'autres manières de matérialiser nos dépendances à la technologie. Donc, c'est des objets de design critique. Il faut expliquer quand même aux auditeurs que vous pouvez pas acheter ça dans votre magasin local.
Non, c'est
local.
Des objets un petit peu emblématiques qui ont pour vision de faire réfléchir à des sortes de dystopies ou d'utopies sociales et de les matérialiser concrètement dans des objets qui font réfléchir. Après, toute la question, c'est comment cette critique-là peut infuser des objets dont on sert tous les jours. Finalement, ce téton noir, c'est super, mais quid des 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook?
Alors du coup, donner une réplique ferait une réponse, je les cite vraiment, mais eux disent que finalement leur pratique de design elle est pas si éloignée des, on va dire, du grand public que ça, en disant bah nous finalement au lieu de designer une chaise qui sera vendue uniquement dans des boutiques de prix et qui seront accessibles du coup uniquement à une certaine classe sociale, tu vois, par exemple chez Ligne Rosette, bah finalement par le biais du musée qui est certes pas le lieu du design à l'origine, ils arrivent à toucher une plus grande population. Enfin bon, je suis d'accord avec toi que pour les usagers de Facebook directement, ça présente pas un intérêt transcendant. Peut-être que on peut parler de l'exposition qui nous hantée par les algorithmes,
oui,
c'est ça?
Oui, hunted by algorithm, récemment donc mise en place à Paris, qui donc montrait des utilisations, détournements ou mises en scène d'algorithmes en tout genre, de façon artistique, avec notamment une réflexion autour des relations homme-animal-machine, des fantômes, des spectres, enfin. Disons, voilà, une mise en scène, une mobilisation artistique de ces technologies qui n'est pas si éloignée dans un sens des démarches de design critique. Mais j'aimerais quand même qu'on en vienne un petit peu au cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part exposer d'autres visions qui ne passent pas dans le réel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres démarches possibles? Alors, j'en ai trouvé une. Désolé, on va retrouver dans la Silicon Valley.
Ah non, un gourou. Tu vas nous parler d'un gourou. Ah, encore un type qui veut expliquer à tout le monde comment ça marche. Là. Ça va m'énerver.
Je me suis un petit peu laissé convaincre par Tristan Harris. Alors, son titre exact, c'était philosophie quelque chose chez Google, product philosopher, quelque chose. Bref, c'est un born again. Il était chez Google il y a très plusieurs années. Il était en charge de cette vision des produits. Et il explique pourquoi c'est mal. Dans un article sur Medium, comme toi, Pia, qui s'appelle « How technologies hijack our minds », comment les technologies ont infiltré nos esprits. Et donc, il explique tout un tas de stratégies néfastes, malhonnêtes, sombres, sournoises, de façons de hacker l'attention des pauvres utilisateurs qui ne se rendent compte de rien. Par exemple, tu es sur le site Cdiscount, tu vas ajouter un ordinateur à ton panier et ça t'ajoute en même temps une carte de réduction que tu n'as pas demandé. Là, c'est un bon exemple de problématique, attention, de trucage.
Ça s'appelle du dark design.
C'est ça, les dark patterns.
Les dark patterns, sans design, pardon.
Design malhonnête. Et donc voilà. Et bah, alors, il est repenti, ce qui est facile parce qu'il a gagné plein d'argent chez Google, donc il a beau jeu de nous expliquer comment nous en sortir.
Bonne formule, hein. J'espère que vous prenez tous des notes. Voilà, vous travaillez pour un GAFA pendant 10 ans. Et
c'est
puis
ça.
Après,
après, on se fait de l'argent en disant comment en sortir. C'est comme les cigarettiers. Et les patchs. Et donc, ce patch a quand même un côté séduisant. Donc, il nous dit les designers doivent être plus honnêtes, repenser les interfaces qui font ce qu'elles devraient faire et qui ne sont pas soumises à des raisons commerciales extérieures aux usages. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on est dans le vrai avec ce gourou ou pas?
Alors, moi, déjà, je n'aime pas les gourous, pour commencer. Et l'honnêteté des designers, encore une fois, c'est toujours très facile quand on est soi-même un designer qui est sorti du système. Il existe quand même aujourd'hui des entreprises ou des projets qui essayent d'incarner cette honnêteté du design, mais je les trouve hyper problématiques. Alors on a beaucoup parlé déjà de Time Well Spent, qui est une initiative qui en fait revient à inventer des services en surcouche pour moraliser certains services qui seraient déficients ou néfastes par les usages qu'ils proposent.
Par exemple, pour que ce soit plus concret pour nos auditeurs, sur Gmail, on pourrait vider sa boîte mail temporairement, sélectionne 10 emails et on fait focus 30 minutes avec un petit bouton. Et ça nous met que 3 emails qu'on peut traiter de façon tranquille. Ou si on veut taper un texte, pareil, un autre bouton qui coupe tous les chats avec nos amis, qui nous permet d'arriver au mieux sur l'article.
Alors c'est très séduisant. En plus, si vous allez sur le site de Time Well Spent, vous avez des super petites vidéos avec un joli motion design qui vous explique tout ça. C'est vraiment très évident. On se dit « Ah, mais c'est formidable. Mon Gmail va devenir bien meilleur et je vais économiser du temps. » Seulement, moi, j'y vois un vrai problème de design, c'est-à-dire un design qui se place en bout de chaîne et qui considère que on a Gmail, on a Facebook, on a Instagram. C'est ça le contexte donné. Et finalement, on ne peut pas créer un geste de design qui remette en cause ce donné. On est obligé de placer des services en surcouche. Et je ferai un lien avec tout un ensemble de gestes de design qui existent aujourd'hui, qui se prétend féministe. C'est par exemple tous ces services, par exemple Uber pour les femmes, en disant « Oui, comme les femmes se font agresser, on a inventé un service où les femmes se font accompagner par des femmes. » Ou alors « Oui, comme il y a le problème de la drogue, du viol, on va vous vendre un vernis à ongles qui change de couleur quand votre boisson a été empoisonnée par une personne malveillante qui veut vous violer. » Seulement, dans ce genre de dispositif, on questionne jamais en amont les causes plus globales et transversales qui amènent à des choses comme la culture du viol ou le fait que les femmes ne soient pas en sécurité dans l'espace urbain.
Peut-être qu'on n'a pas envie, parce que si on est drogué, finalement, on ne veut pas sortir. Enfin, peut-être, j'en suis un exemple, vu que je n'ai même pas essayé de quitter ces réseaux-là. Et c'est ce que Tristan Harris appelle « attention reward », enfin la récompense d'attention. Donc c'est par exemple ce petit mécanisme assez simple qui maintenant est répandu dans plein d'applications où on slide vers le bas et ça recharge un flux, donc il y est sur Facebook ou sur Twitter, et c'est un peu comme finalement une machine à sous. On va avoir parfois un message, parfois deux, une petite notification ou parfois rien, et comme on sait jamais ce qu'il y a derrière, ça crée une addiction. Il explique ça très bien, ce Tristan Harris, et donc c'est les mêmes mécanismes que dans les casinos, et les casinos créant de l'addiction, finalement ça a été mis en évidence dans un livre qui s'appelle Addiction by Design de la chercheure Natasha Dohoschul, D-O-W. Et donc peut-être que c'est ça, peut-être que finalement on en est réduit à inventer des petites surcouches parce qu'on est bien heureux d'être drogué, malgré soi.
Ouais, alors du coup.
Bon, c'est assez cynique comme conclusion. Ouais.
C'est assez terrible, j'espère vraiment qu'on va pas finir là-dessus, je panique complètement. Non, pour défendre quand même une posture de design qui serait porteuse, déjà parce que tous deux, on se veut designer, on se présente quand même comme designer et chercheur en design. On a cette ambition, je pense, de politiser le design et encore une fois, de faire une critique qui soit. Dans des causes en amont, encore une fois, qui reviennent à des contextes antérieurs et qui s'intéressent à des causes sociétales. Alors toi, Anthony, tu dis design, éthique ? Non.
Design moral.
Design
ouais,
moral.
Parce que pour moi, ça engage une vision de la société et non pas seulement des postures individuelles, sinon le collectif, on le manque. Alors peut-être que ce n'est pas le bon terme, on verra dans la suite du podcast si je le garde ou pas. Je le tente aujourd'hui.
Et réinvestir, toi, réinvestir le design comme idée politique. Et pour boucler sur notre thème aujourd'hui, réinvestir l'idée de déconnexion en la séparant des idéaux pastoraux de retour à la nature. Arrêter avec cette binarité, soit on est connecté à tout, soit on est connecté à rien. Peut-être politique voilà. Des filtres.
On finira pas dans le Larzac à élever des vaches. Et puis aussi, le problème des petits pansements ou des surcouches sur les services comme Gmail ou Facebook, des petits plugins, c'est que finalement, on n'a jamais accès au système en tant que tel. Peut-être que c'est là qu'il faut revenir, je ne sais pas si c'est un retour d'ailleurs, mais pousser en tout cas davantage des logiques libres et débattues collectivement, donc autrement dit du logiciel libre, qui du coup peut faire débat, peut donner lieu à des conflits et à des discussions collectives.
Il y a des vaches dans le Larzac ? il me paraît qu'on est précis, on est chercheurs, je demande. Hein.
Je suis trompé de région, mais chercheurs sur les technos, vous me pardonnerez, je suis trop drogué.
Merci énormément Anthony et Pia pour cette première essai en fait sur Kill by App. Comme il y a énormément de références qui sont données, des noms, moi je cherchais en temps réel en même temps, c'était un petit peu compliqué. Les trois chapitres, exceptionnellement, on va pas mettre la documentation dans la page de l'émission elle-même, mais pour chacun des chapitres, donc vous irez sur le site cpu.pm ou sur le site qu'ils vont construire justement pour héberger leur propre podcast, on va mettre un maximum de liens. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si à la limite ça vous fait chier ces discussions de chercheurs et si on devrait mettre plus de bordel, voire balancer des minuteurs Pomodoro, pour leur apprendre ce que c'est que l'attention. La méthode Pomodoro, vous la connaissez.
Mais oui, on la pratique avec les étudiants, figure-toi.
Vous arrivez à les mettre 25 minutes focus sur un truc ?
J'ai pas dit qu'on y arrivait.
On va essayer de voir. Ils vont aussi intervenir peut-être dans d'autres sujets, dans d'autres émissions de temps à autre pour donner un petit regard transversal. Et nous-mêmes, on va essayer de faire pareil. En attendant, je sais pas quel est du coup peut-être un avant-goût du prochain sujet que vous souhaitez aborder.
Les sexbots, les robots pour faire l'amour.
Il y a Myriam qui va faire la gueule. Elle voulait absolument le faire avec un test
Allez,
comparatif.
On débranche la Switch.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Pia Pandelakis, Chief Daphné Officer, Anthony Mazur, Chief Fred Officer et Dascritch, Chief Scooby-Doo Officer. Vous l'avez pas vu venir celle-là. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio Éphémère. Et l'intégralité du programme, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est à part les parties musicales, tout est en licence libre. Creative Commons. Et la prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h sur Radio FMR et diffusion simultanée sur le site cpu.pm. Si vous nous écoutez sur Radio FMR analogique en modulation de fréquence, il est presque midi. Il est l'heure de passer à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. J'avais dit pas de Loz.
Non, on n'en a pas parlé.
Ouais. Non, mais j'ai le plan sous les yeux.
Il est hanté par le fantôme de Deleuze.
C'est ça. Le fantôme du rhizome.
On ferait une émission spéciale, la Screech promis.
Ouais. Évitez Nietzsche et je serais content.
On fera les deux. Deleuze avec Christian Nietzsche.
Tu suis pas la série Lucifer ?
Non.
Quand
désolé.
Il parle, quoi ? Qui a tué Dieu ? Nietzsche ? Non, qui a tué ton père ? Nietzsche ? Ah, pardon.